Ce matin, je vous entendais chanter. Et quand je me retourne, je vois qu'il y a quand même pas mal de sièges vides. Mais j'avais l'impression qu'il y avait tellement de monde qui chantait. De tout son cœur, vraiment. Et de pouvoir proclamer ensemble ce qu'on a proclamé ce matin, je ne sais pas, mais si vous êtes tout à fait 100% OK avec tout ce que vous avez proclamé ce matin, si vous le vivez tous les jours, je peux aller me rasseoir. Je vais aller me rasseoir. Mais je ne vais pas aller me rasseoir parce que moi, je dois encore une fois me parler à moi dans ce que j'ai à cœur ce matin de vous partager. Aucun autre nom que celui de Jésus. Jésus seul. C'est lui le centre de tout. Et pourtant, il y a un verset dans Matthieu 7, les versets 13 et 14, où il est parlé d'une porte étroite. Aucun autre nom que celui de Jésus. Entrez par la porte étroite. Et ensuite, il est dit, en effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Et dans Jean 14, verset 6, Jésus parle de cette porte. Il dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Et c'est ce qu'on a proclamé ce matin. C'est ce qu'on a dit et redit. Et pourtant, il y a une porte qui est large. Ce n'est pas si évident que ça de vivre, de passer par cette porte étroite et de rester sur ce chemin étroit. Ce n'est pas si évident que ça. C'est un chemin difficile. Beaucoup peuvent en témoigner dans l'Église. On peut avoir vraiment des difficultés au niveau de notre santé, au niveau de nos relations, de tellement de façons. C'est un chemin qui n'est pas facile. Mais c'est un chemin qui a une perspective. Au bout du chemin, il y a quelque chose. Il y a cette vie éternelle dans la présence de notre Seigneur. Et on est déjà, en étant sur ce chemin, on est déjà dans cette perspective-là. On la vit déjà. Mais faut-il encore ne pas garder la tête baissée sur les circonstances qu'on vit, mais lever la tête en direction du bout du chemin et garder les yeux fixés sur le but, quoi que nous vivions. Alors je ne veux pas dire qu'on doit ignorer tout ce qu'on vit, que nos difficultés, on doit les ignorer, on ne doit pas en tenir compte. Elles sont là, c'est la réalité. C'est des réalités qui sont là. Mais quand on peut les vivre avec Jésus à nos côtés, ça change tout. Il y a quelques mois, dans notre cellule, on a commencé de lire un livre. Puis chaque fois qu'on se retrouve, on prend un chapitre. Je voulais le prendre avec, je l'ai oublié, mais ce n'est pas grave. Le titre de ce livre, c'est « Une vie motivée par l'essentiel ». Plusieurs le connaissent, ce bouquin. Et on a commencé le premier chapitre, ça a fait un petit peu réagir. Je vais juste vous lire quelques phrases de ce qu'on a lu dans ce chapitre. Vous n'existez que parce que Dieu le veut bien. Vous avez été créés par Dieu et pour Dieu. Et tant que vous ne comprendrez pas cela, votre vie n'aura aucun sens. Beaucoup essayent d'utiliser le Seigneur pour se réaliser, mais c'est contraire à l'ordre des choses et donc voué à l'échec. Vous avez été fait pour Dieu et non l'inverse. La vie consiste à laisser le Seigneur se servir de vous afin d'accomplir ses plans et non avoir recours à lui pour vos projets personnels. Alors ça a fait réagir et c'était vraiment intéressant parce qu'il y en a qui ont bien affirmé que « Attends, c'est quand même ma vie, j'ai quand même encore le droit de vivre, j'ai quand même encore le droit de décider des choses. » Puis d'autres qui réagissaient tout différemment, qui disaient « Mais ça fait tellement bien de savoir que Dieu est aux commandes, que le Seigneur est aux commandes et que je peux lui faire confiance. » Et ça a amené à une discussion, à un partage. On a vécu vraiment une chouette soirée et tout le monde est reparti encouragé et en réalisant finalement que « Oui, on a besoin du Seigneur. » Et si ce n'est pas lui qui est le centre, ça va être difficile. Et autour de nous, combien de livres combien de choses nous sont proposées qui sont centrées sur nous-mêmes. Des bouquins, on en a autant qu'on en veut. Les 36 étapes qui vous amèneront au succès. Écoute ton corps, j'ai pris quelques titres qui existent. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. L'encyclopédie du bien-être. Le jogging pour mon bien-être. 90 jours pour booster mon bien-être. Et encore, mon petit cahier tisane bien-être. Voilà. Donc, on peut trouver tout ce qu'on veut pour essayer d'être bien personnellement. Et même dans nos bibliothèques chrétiennes, combien de livres qui nous proposent de découvrir le sens de notre vie, comment avoir du succès, comment réussir. On reçoit plein de recommandations qui nous aident à atteindre nos objectifs. Nos objectifs, mes objectifs, les miens. Si au départ, on n'a pas cette notion qu'on est là pour le Seigneur, ces bouquins, ils ne nous aideront pas à trouver cette relation avec lui. Je vais un petit peu imaginer ça au travers d'une petite histoire que j'ai inventée. Là, j'ai un appel. Je ne sais pas si vous voyez, juste derrière moi, là. Il y a François qui est en train de m'appeler. Ah, salut François. Ah, et vous savez quoi? Il m'invite pour demain. Alors ça, c'est vraiment chouette, c'est vraiment sympa. Merci, merci, merci mille fois. Alors François, demain matin, on se retrouve à 8h à la gare. On va prendre le train, on va descendre à Lucerne, on va aller visiter le musée des transports, tu verras, il est génial. Puis en remontant, on va s'arrêter à Berne, je connais un petit bistrot qui est vraiment sympa. Tu vas voir, on va passer une super journée. Allez, bonne journée, à demain. Voilà, j'ai eu un appel de François. Le lendemain, François, qui lui est bien, hein, j'attends, il vient au rendez-vous, on prend le train, on fait toute notre journée, on passe notre journée ensemble. Mais il y a quelque chose qui... Il n'est pas comme d'habitude, il n'est pas guéré comme d'habitude, il est un petit peu à réfléchir tout le temps. Je me dis, mais il y a quelque chose qui n'est pas abouti, il y a quelque chose qui a manqué dans cette journée, à la fin de la journée, en faisant le bilan. En fait, je me suis servi de François pour me réaliser. C'était mon projet d'aller à Lucerne, d'aller au bistrot, puis pas d'y être seul, c'était sympa d'être avec quelqu'un quand même. Alors j'ai pris François avec moi. C'était l'occasion, puisqu'il m'a téléphoné qu'il voulait passer un moment avec moi, ben je l'ai pris avec. Et en fait, ce que vous ne savez peut-être pas, mais si j'avais laissé François me dire pourquoi il voulait me voir, il m'aurait expliqué qu'il a un super appartement à Lugano, ça vous ne saviez pas, hein, au bord du lac, qu'il le met à disposition gratuitement pour les prochaines vacances. Je pourrais même profiter de la piscine, et puis il y a un petit restaurant tout près, je peux vraiment profiter de tout, il me paye tout. Ah, il est vraiment sympa. Il aurait été vraiment sympa. Mais il m'aurait peut-être aussi prévenu de certaines choses. Il m'aurait peut-être prévenu que quand c'est les vacances, puis qu'on va au Tessin, il y a des bouchons. Et qu'il faut prévoir du temps, vraiment prévoir du temps. Il m'aurait peut-être dit qu'une fois arrivé sur place, il ne faut pas que je me gare sur la place numéro 28, parce que ma voiture, je vais la retrouver à la fourrière. C'est sur la 29, pas une autre. Il m'aurait peut-être dit aussi que si je me trompe de portail et que je prends celui de gauche, je vais être accueilli par le chien du voisin. Et il risque bien de me dégommer, lui. Ah, et puis le 2610, le fameux code de la boîte à clé. Drôlement important si je veux rentrer dans la maison. Toutes ces choses-là, il me les aurait dites pour que je puisse profiter de ce qu'il avait prévu pour moi. Mais encore fallait-il que je lui laisse le temps de me parler, de me parler de ses projets. Fallait-il encore que je l'écoute quand il me donnait les instructions. Fallait-il encore que je fasse en sorte de me souvenir de ses instructions et que je veuille bien les mettre en pratique, les suivre. Je vais relire cette phrase du livre là que je vous ai lu tout à l'heure. Beaucoup essayent d'utiliser le Seigneur pour se réaliser, mais c'est contraire à l'ordre des choses et donc voué à l'échec. Vous avez été fait pour Dieu et non l'inverse. La vie consiste à laisser le Seigneur se servir de vous afin d'accomplir ses plans et non avoir recours à lui pour vos projets personnels. En d'autres termes, on est destiné à devenir celui ou celle que Dieu désire qu'on soit. Et on a un exemple parfait, l'exemple de Jésus quand il était sur la terre. Là, je vais juste prendre un exemple qui est assez au début, on le trouve dans Luc 2, les versets 46, un petit peu avant aussi. En fait, c'est le moment où les parents de Jésus ont perdu Jésus. Ils étaient à Jérusalem, ils voulaient retourner, et puis en rentrant, ils ont réalisé qu'il n'était pas avec eux. Et pendant 3 jours, ils l'ont cherché. Et il est dit dans la Bible, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres, il les écoutait, il les interrogeait. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. On imagine cet enfant, là au milieu des responsables principaux du peuple, à les écouter, à donner des réponses sensées, à être intéressé. Lui, c'est certain, il a un avenir tout tracé. Il va être le grand prêtre à la place du grand prêtre à un moment donné. C'est mon interprétation toute humaine de la situation. Mais ce n'était pas le projet de Dieu pour lui. Jésus vivait sur cette terre avec la perspective du ciel, de l'éternité, et pour amener cette perspective sur la terre, cette perspective du ciel, de l'éternité à l'humanité. Et pourtant, tout au long de son ministère, tout au long de sa vie sur terre, il a été confronté à la difficulté. Et je ne vais pas faire une liste ce matin de toutes les difficultés auxquelles il a été confronté. Il y en a plein qui peuvent vous venir en tête, là. Mais rien ne l'a détourné du but. Rien. Et je pense aussi à la période dans le jardin de Gethsémané. On connaît tous ce moment où Jésus prie, le Père lui demande, mais si c'était possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas ce que je veux, ce que toi tu veux. Mais il y a autre chose qui s'est passée à ce moment-là, et c'est Jean qui en parle, dans Jean 17, c'est un chapitre que j'aime énormément, qui me touche toujours quand je le lis. C'est juste avant son arrestation aussi. Il sait ce qu'il attend. Son souci numéro un, c'est pas sa situation. Son souci numéro un, c'est moi, c'est toi, c'est ses disciples et tous ceux qui viendraient après eux, leur unité, qu'ils entrent dans le rappel, qu'ils soient gardés du mal. Ce chapitre 17 de Jean, il est d'une telle puissance, moi je vous encourage vraiment à le lire avec cette conscience que Jésus parle de vous à son Père à ce moment-là. Rien n'a détourné Jésus du but, même pas la perspective des souffrances qu'il allait endurer sur la croix, même pas ça. Quel exemple ! Mais comment ? Comment est-ce qu'il faisait pour en arriver à ça ? Il y a un épisode qui s'est passé avec Jésus, qui me parle aussi énormément, c'est l'épisode avec Nicodème qui va trouver Jésus. Nicodème, c'est un pharisien, c'est un chef des Juifs. Mais quand il voit Jésus, il réalise qu'il y a quelque chose qui lui échappe. Il doit comprendre ce qui lui échappe. Nicodème entend les enseignements de Jésus, il voit les miracles qu'il accomplit, et Nicodème reconnaît en Jésus une personne qui a Dieu avec lui. Et il lui dit, dans Jean 3, le verset 2, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Comment faisait Jésus pour avoir Dieu avec lui ? La réponse, il la donne dans le verset 12 du même chapitre. Et c'est toujours à Nicodème qui parle à ce moment-là. J'ai dû la lire plusieurs fois pour vraiment la comprendre, cette réponse. Personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Jésus qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc il est sur terre à ce moment-là, mais en même temps il est dans le ciel. Et on va un petit peu développer ça. Il était 100% dans le ciel, recherchant la volonté de son Père, et cette communion avec lui, et 100% sur cette terre pour obéir à son Père à 100%. L'exemple que Jésus nous a laissé, je vais le dire comme ça, il est pas limité à un 100%, à être un disciple à 100%. Et j'avais entendu ça dans une prédication qui m'avait parlé aussi. Pas des disciples à 100%, mais à 200%. Le disciple à 100%, c'est 50-50. 50% dans le ciel, 50% sur la terre, pour accomplir la volonté de Dieu. Vous allez me dire, c'est pas mal. C'est le but. Mais je crois, et il faut qu'on réalise de plus en plus que quand nous sommes disciples du Seigneur, nous devons être 100% dans le ciel et 100% sur la terre. Disciples à 200%. 100% à chercher la volonté de Dieu, à chercher sa présence, lui demandant de nous accompagner parce qu'on a besoin de lui. Pour que les 100% qu'on vit sur cette terre soient ce 100% qui lui obéit. Pas juste une partie de nous, mais le tout. Et on va pouvoir obéir au 100% de ce que lui nous a donné quand on est en communion avec lui, dans le ciel. On n'est pas appelé à avoir un pied sur la terre, un pied dans le ciel. Mais les deux pieds sur la terre, mais les deux pieds dans le ciel également. Et en y réfléchissant, je réalise que pour moi, il y a encore du chemin. Beaucoup de chemin à faire. Combien de fois est-ce que je me suis engagé dans une situation boiteuse? Tout d'un coup, je réalise, mais est-ce que c'est vraiment comme ça que je dois faire les choses? Combien de fois est-ce que je réagis avec les deux pieds sur terre en oubliant de les placer dans le ciel? Combien de fois? Combien de fois j'ai un pied dans le ciel et l'autre sur la terre? Je m'engage avec la certitude de répondre à la volonté du Seigneur, mais je ne vois pas le résultat que j'attends. Je vois juste une réponse polie de la personne à qui j'ai parlé et que ça devait toucher normalement. Puis je suis là, mais Seigneur, moi je ne comprends pas. Je t'obéis et je ne vois pas de résultat. J'ai pourtant fait ce que tu m'as demandé. Le problème, c'est que quand je regarde le résultat, je n'ai que les pieds sur terre. Je ne vois que le visible. Il y a un texte qui dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Est-ce qu'il y a des personnes ici qui vivent les choses comme moi? Il y en a. Je ne suis pas seul. C'est bon. Ça me soulage, mais en même temps, ce matin, j'ai envie de m'arrêter et de dire au Seigneur, mais Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où c'est ma personne qui a pris le devant, où c'est ma volonté qui a pris le devant, où c'est la volonté de mon propre cœur. Pardon pour toutes les fois où j'ai été pris dans l'élan de ma vie sur la terre, où je me suis laissé prendre par cet élan. Pardon pour toutes les fois où j'ai manqué, Seigneur, à t'écouter, à te suivre, à entrer dans ta présence. Et Seigneur, on a besoin de ton esprit. Saint-Esprit, on a besoin de toi pour entrer dans tes perspectives. Pour que quand on rencontre quelqu'un, Seigneur, on puisse voir dans cette personne tes perspectives, tes projets, quand tu places des gens devant nous, quand tu places une situation, tu nous places dans une situation, qu'on puisse, Seigneur, savoir qu'est-ce que tu attends de moi dans cette situation. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui fais ton œuvre dans nos vies et qui veux la faire ce matin. Merci, Seigneur. Quand on vit dans ce monde, aujourd'hui, plus que jamais, on réalise que ce monde a besoin de personnes qui vivent pleinement dans le ciel et pleinement sur la terre. Et sans cette perspective du royaume de Dieu, cette perspective de l'éternité, qu'est-ce qu'on peut amener au monde qui nous entoure ? Alors bien sûr, on pourrait faire une liste de tout ce qui ne va pas dans ce monde. Une grande liste. Ces temps, on parle beaucoup de conflits, de tous ces conflits. Et je vais simplement prendre l'exemple d'Israël en deux mots. Alors ça concerne le peuple de Dieu. Alors on s'informe. On recherche des réponses dans tous les médias possibles. Et on en trouve autant qu'on en veut, de toutes sortes. On passe des heures à éplucher des vidéos sur YouTube, partout, pour connaître le sujet. Mais au final, pour vivre quoi ? Et j'ai vu des gens être totalement paralysés par cette situation, à force d'écouter toutes sortes de choses, à force de s'informer de plein de choses, et de plus savoir quoi en faire. Moi, j'ai beaucoup apprécié, pour ceux qui étaient là mardi soir, le temps de prière qu'on a vécu avec Boris. Il revenait avec son épouse d'Israël, donc ils ont vécu toute cette période qui a été vraiment difficile. Mais il a abordé le sujet mardi soir d'une manière tellement différente. Il nous a parlé du même conflit, ce conflit dont on parle dans les médias, à la différence que lui avait les deux pieds dans le ciel et les deux pieds sur la terre. Il comprenait ce que Dieu est en train de faire aussi aujourd'hui, au milieu de son peuple, les projets qu'il a pour lui. Et il nous a emmenés dans un temps d'intercession, un temps de prière, tellement fort, tellement concret, où on savait dans quelle direction il fallait qu'on prie. Et je crois que c'est un exemple de ce que c'est notre appel. Amener le royaume de Dieu au milieu des ténèbres. Alors ça peut être de façon tellement diverse. On a tous été créés différemment, avec des dons, avec des capacités différentes. Mais les dons que Dieu a placés en toi, les dons que Dieu a placés en chacun d'entre nous, il les a placés pour qu'ils soient utilisés pour sa gloire. Pour que son royaume puisse être manifesté sur cette terre. Quand j'étais petit, à l'école du dimanche, puis parfois à la maison aussi, on a appris un chant que je pense beaucoup de ceux qui ont vécu l'école du dimanche et puis qui ont un peu mon âge ont chanté aussi. À un moment donné, le refrain termine comme ça. « Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans
le bien. »
Voilà, exactement. Alors je l'ai beaucoup chanté ce chant. Mais franchement, aujourd'hui, je le trouve déprimant. Désolé de vous le dire comme ça. Parce que il parle que de coins sombres. Les deux pieds sur terre, il parle que de ça. On est dans un coin sombre. Et c'est le coin sombre qui fait qu'on doit briller. Alors, c'est sûr, c'est la réalité du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mais personnellement, je n'ai plus envie et je ne veux plus que ce soit la réalité du monde qui jauge ce que je dois être. Je n'ai plus envie d'être ballotté à tout vent. Quand il y a un moment difficile, il faut aller auprès du Seigneur pour recevoir ce qu'on a besoin. Ça me fait penser, juste comme ça en passant, à la parabole des 10 vierges. Celles qui étaient prêtes, celles qui ne l'étaient pas. Juste au dernier moment, il faut aller, mais c'est trop tard. Je veux que je puisse vivre une relation avec mon Seigneur jour après jour, à chaque instant. Que ce soit mon cœur à cœur avec lui, sa parole donnée qui influence ma vie, qui influence ma journée. Dans Éphésiens 5, le verset 8, « Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, conduisez-vous comme des enfants de lumière. » Alors j'ai emmené quelque chose avec moi, c'est un objet qui m'inspire dans bien des situations, un objet que vous avez, je pense, tous à la maison. Une bougie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on arrive à l'heure d'hiver. Certains l'ont remarqué un petit peu tard, apparemment. Ils l'ont remarqué que ce matin, mais l'heure d'hiver est là. Alors aujourd'hui, ça va. Ce matin, ça va bien, il faisait clair quand on s'est levé, mais ce soir, vous verrez la différence. À 17h, il commence à faire sombre. Et c'est l'occasion d'allumer une petite bougie pour l'installer au coin de la table de salon. De temps en temps, il y a un petit courant qui vient un petit peu faire vaciller la flamme, mais rien de grave. Il n'y a pas beaucoup de risques qu'elle s'éteigne, cette bougie, sauf s'il y a Kevin et Naël dans les parages, là, c'est différent, je dirais, mais... Elle est là, sa flamme est là, tranquille. Sa lumière est réconfortante, elle est, je ne sais pas comment dire en français, c'est fou, il y a des mots que je ne sais pas dire en français. C'est heimelig, hein, c'est chaleureux, c'est bon, c'est voilà. Elle n'est pas très utile, cette bougie, mais sa présence fait du bien. Elle n'est pas très utile au monde, à l'extérieur où il fait nuit, parce que finalement, à l'intérieur, on a de la lumière, on a de la chaleur, on a tout ce qu'il nous faut. Pourtant, il y a des moments, en tant que lumière, des moments où on peut être cette lumière. Et il y a des moments où on peut être cette lumière auprès d'autres lumières. Les temps qu'on passe ensemble nous font du bien. Et on en a besoin, on en a tellement besoin. Moi, je remercie le Seigneur pour l'Église, je remercie le Seigneur pour chacun d'entre vous, parce qu'on peut vivre ensemble. Ça nous réconforte, ça nous fait du bien, et ça nous permet d'augmenter notre flamme. Mais cette bougie, elle sera vraiment utile quand elle sera à l'extérieur, quand il fait nuit noire. C'est là qu'elle pourra être un point de repère. Et plus il fera sombre, plus elle sera utile. Mais vous êtes tous d'accord que si je mets cette bougie dehors comme ça, la lumière, elle ne va pas rester allumée longtemps. Alors il faut trouver la parade. Je vais l'éteindre pour la mettre dedans parce que je vais me brûler les pattes. On va la mettre dans protégée par cette grille. Je vais être lumière dans ce monde. Mais c'est vrai, pour être lumière dans ce monde, je dois savoir qui je suis en Jésus-Christ. Alors il y a toute une série de versets qui nous parlent de notre identité en Christ. Et c'est bon de les savoir, c'est bon de les avoir. Et de les proclamer. Et quelque part, ce grillage, ça va représenter ces versets que je peux proclamer sur ma vie. Mais voilà, je sors avec ma bougie, ma lanterne, et puis il y a un coup de vent qui arrive, n'est-ce pas ? Il y a un coup de vent qui arrive, évidemment. Qu'est-ce qui n'a pas joué ?
Marie-Jo.
Alors il y avait du vent, mais le vent il sera toujours là. Pourtant, je l'ai fait au nom de Jésus. Je suis sorti au nom de Jésus, mais ça n'a pas marché. Je me suis encore fait avoir, je me suis encore raté. J'ai décidé d'être lumière en son nom, mais il y a quelque chose qui ne joue pas. Et il manque un élément essentiel. Quel élément ? Ouais. On va le représenter comment dans cette lanterne ? Il y a le verre que je n'avais pas mis.
On recommence ?
Non, mais je ne veux plus ni verre, toi, tu as trop de souffle.
Non.
Voilà. Le verre que je mets autour de cette bougie, il va protéger sa flamme du vent. Et ce verre, quelque part, c'est ces 100% que je suis appelé à vivre dans le ciel. À rechercher la présence de Dieu, la direction de Dieu par son Saint-Esprit. Alors à ce moment-là, tous ces versets dont je vous parlais, ils auront leur importance. Ce ne sera pas juste une théorie, c'est quelque chose qui est ancré en moi. Et c'est à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, que je pourrai être lumière pour ceux qui m'entourent. Vivre à 100% dans le ciel, 100% sur la terre. Juste pour terminer, j'aimerais vous partager une petite histoire que j'ai vécue il y a une dizaine de jours. C'était une soirée du groupe de jeunes qui se retrouve chez nous dans la ferme. Alors le local, pour ceux qui ne le savent pas, il est tout en haut dans la grange.
Oh, il est magnifique.
Mais il est tout en haut dans la grange, caché. Et les jeunes se retrouvaient le vendredi soir. Vers 23h, moi j'étais à la cuisine, installé au bout de ma table. Tout à coup, je vois une silhouette qui approche de la porte-fenêtre. Puis je vais ouvrir, et c'est quelqu'un qui était là, une personne qui est là, et qui me dit, je viens chercher mes enfants. Mais c'est la première fois que je viens, quand il fait comme ça sombre le soir, et vraiment il faisait nuit, il n'y avait pas une étoile, c'était couvert, il n'y avait rien, il faisait nuit noire. Mais je ne sais plus par où passer. La seule lumière qu'elle voyait, c'était celle de la cuisine, là où j'étais installé. Et elle s'est laissée attirer par cette lumière. Alors moi, dans ma bonté, je lui dis, alors ils sont en haut dans la grange, et il faut passer par derrière. Alors elle s'éloigne pour monter à la grange, et pour ceux qui connaissent notre maison, juste au coin de la maison, elle tourne. Je me dis, aïe. Parce qu'en fait, derrière la maison, il y a un petit bout de cailloux, de bosse, de trous, de tout ce que vous voulez. Puis ensuite, il y a notre citerne, puis le chemin contourne tout ça. Elle tourne directement. Je me dis, oula, ça ne va pas le faire. La pauvre. Attendez, je vais chercher une lampe. Alors, je suis allé chercher une lampe et je l'ai accompagnée jusque derrière la maison. Et à un moment donné, elle a vu la lumière du local. Et c'était bon, j'ai pu la laisser aller. Et je crois que c'est un petit peu une image de ce qu'on doit être. Je n'étais pas préparé du tout à ce moment-là. Je n'avais pas allumé à la cuisine parce que si quelqu'un arrive, il pourrait venir peut-être, etc. Non, je n'avais pas de plan, pas de projet. J'étais là, installé pour moi. Mais la lumière qui était là, elle a attiré la personne. On est appelé à être des lumières. Et dans la nuit, des personnes qui nous entourent, dans des situations tellement sombres que certains peuvent vivre, c'est là qu'elles verront cette lumière. Automatiquement, elles viendront vers nous. Et j'ai simplement eu besoin de faire un petit bout de chemin avec. J'ai été un maillon pour l'emmener plus loin. Et c'est ce qu'on est souvent appelé à faire. D'être juste un maillon et de faire ce que le Seigneur nous demande. Ensuite, il demandera à quelqu'un d'autre de faire la suite. Mais faire ce qu'il nous demande. Et si je fais ce qu'il me demande, là où je suis, je serai dans ses projets, je serai dans ses plans. Nous sommes appelés à être enfants de lumière. Qu'il fasse jour, qu'il fasse sombre, ce n'est pas important. Moi, je brille de la même manière. Je suis appelé à briller de la même manière. Alors c'est sûr, je serai bien plus visible quand il fait sombre, mais je brillerai de la même manière. 100% les pieds dans le ciel et 100% les pieds sur la terre. Je vais encore prier. Merci Seigneur, merci Jésus parce que tu es venu sur cette terre. Tu es venu, Seigneur, pour accomplir la volonté de ton Père. Tu es venu, Seigneur, parce que tu as été envoyé. Mais ce n'est pas parce que tu as été envoyé que tu es simplement resté distant, loin, et que tu as vécu ta vie. Non, tu es resté en connexion avec ton Père. Et Seigneur, cet exemple, on veut le prendre pour nous. Seigneur, que toujours à nouveau nous soyons dans cette connexion avec toi, que nous puissions vivre ces cœur à cœur avec toi, toujours plus intensément, pour être cette lumière que tu veux qu'on soit là où tu nous places. Qu'on ne soit pas surpris quand tout soudain on nous demande d'être lumière, mais qu'on soit prêt, qu'on soit simplement disponible, qu'on soit simplement là parce que tu nous y as placés. Seigneur, merci parce que tu nous as placés sur cette terre, parce que tu nous as donné des dons, des capacités, et à chacun des dons, des capacités tellement différents. Mais pour chacun d'entre nous, Seigneur, c'est dans ta présence, c'est dans ce cœur à cœur avec toi, c'est dans cette intimité de ta présence que nos dons vont se développer, que nous pourrons nous mettre en route et donner autour de nous ce que toi tu places dans nos vies, dans nos cœurs. Seigneur, je te prie pour chaque personne ici, chaque personne qui entend ce message, que Seigneur, ton esprit vienne nous visiter aujourd'hui, que ton esprit vienne nous rejoindre et toucher nos cœurs, pour que nous, Seigneur, nous ayons toujours ce besoin de nous approcher de toi, de vivre ce cœur à cœur avec toi. Oh Seigneur, merci pour l'œuvre que tu veux faire dans nos vies. Et on veut te dire simplement, oui Seigneur, fais-la dans chacune de nos vies. Amen.